Bonjour à tous et à tous, il est 15h, c'est l'heure du voyage avec Dominique. Voyage fait des mots. Bonjour Dominique.
Bonjour Emeline, bonjour à tous.
Et aujourd'hui, pour commencer cette émission, Dominique, on va aller voir plein de petits animaux avec des petites fables, c'est ça?
C'est ça, voilà. Bon, on va changer un petit peu le rythme, comme bon, c'est bientôt Pâques, il y a les enfants, tout ça. Mais en fait, tu verras que là, si tu veux, la finalité de ces fables, qui, c'est vrai, on a l'impression que c'est pour les enfants, et en fait, c'est pour les grands enfants. Hein.
Il y a toujours une morale.
Exactement, il y a toujours une morale. Donc c'est vrai que la morale s'adresse justement à l'éducation des plus jeunes, mais en fait, des fois, ça fait pas de mal, une petite piqûre de rappel aux adultes aussi.
C'est vrai.
Donc on va commencer par le premier, c'est des petits textes très très courts, tu vas voir. Le premier s'appelle « La fourmi reconnaissante ». Donc là, c'est pareil, c'est un recueil, tu vois, qui est paru vers les années 1480. Tu vois que la morale, même à cette époque, elle avait déjà lieu. Hein. Une fourmi tourmentée par la soif s'approcha prudemment de la margelle d'un puits. Mais comme elle allait boire, elle tomba dans l'eau. Tout près du puits, il y avait un grand arbre sur lequel était perchée une colombe. Quand la colombe vit la fourmi tomber à l'eau, elle cassa une brindille avec son bec et la laissa choir dans le puits. La fourmi monta sur la brindille et parvint à bon port. Mais il arriva qu'un oiseleur qui passait par là mit une ramille gluée au bout d'une longue perche pour attraper la colombe. Quand la fourmi vit ce qu'il manigançait, elle le mordit au pied. L'oiseleur sursauta et lâcha la perche. Le bruit effraya la colombe qui s'envola aussitôt. Elle fut ainsi sauvée d'une mort certaine et bien récompensée de ce qu'elle avait fait pour la fourmi. Si des animaux privés de raison savent reconnaître un bienfait, à plus forte raison, les hommes raisonnables devraient être reconnaissants de rendre le bien pour le bien.
À bon entendeur, salut.
Exactement. Alors, toujours dans le même esprit, cette fois, il s'agit encore d'une petite souris et d'une grenouille. Hein. C'est un pareil. On est dans Martin Luther, donc 1483-1546, donc tu vois. Une souris cherchait à passer l'eau et n'y parvenait point. Aussi demanda-t-elle aide et assistance à une grenouille. La grenouille, qui était une scélérate, lui dit « Lis donc ta patte à la mienne, je vais nager et te tirer sur l'autre rive. » Mais dès qu'elles furent dans l'eau, la grenouille plongea pour noyer la souris. Tandis que la souris se débattait, survint un milan qui, en s'emparant de la souris, tira en même temps la grenouille et les croqua toutes deux. Méfie-toi de tes fréquentations. Le monde est plein de faussetés et de traîtrises. Quiconque a de l'ascendant sur son ami le tient, pour ainsi dire, enfermé dans un sac. Mais la traîtrise retombe toujours sur son auteur, ainsi qu'il arrive ici à la grenouille.
Et voilà.
Le troisième petit texte s'appelle « Rêve derrière des barreaux ». C'est vrai que c'est un conte aussi d'un fabuliste allemand, aussi qui vécut de 1875 à 1950, donc un petit peu plus près de nous. Tous les jours, du matin au soir, un vieil ours blanc arpentait sa cage derrière les barreaux rouillés de l'une des plus grandes et des plus mieux gardées de toutes les fosses du zoo. On n'avait jamais vu d'ours aussi fort dans un jardin d'acclimatation, et il était devenu absolument intenable. « Quel gaspillage d'énergie !» s'étonna un jeune morse qui venait d'arriver au zoo. « Ce vieux flibustier s'imaginerait-il par hasard qu'il va trouver inopinément quelque ouverture qui lui permettra de s'échapper et d'attaquer les autres animaux ?»« Certes non, » répliqua l'un de ses compagnons plus anciens. « Les barreaux sont solides et l'ours n'est pas stupide à ce point. S'il ne tient pas en place, c'est qu'il se rappelle les vastes étendues de l'océan et de la banquise, infinies, dont il était jadis le maître. Lorsqu'il arpente sa cage, il se donne l'impression qu'il est aussi libre qu'autrefois. Sans cela, la captivité aurait brisé son courage et aurait peut-être même eu raison de sa vie. Ne me dis pas qu'il est impossible de vivre ainsi d'illusions. Pour beaucoup d'entre nous, c'est même le seul recours. Il n'y a pas tant de moyens d'alléger le fardeau de l'existence et je ne veux pas croire que l'illusion qui rend heureux soit tout à fait mauvaise. » Le jeune morse en croyait à peine ses oreilles. « Une illusion ? « Faut-il donc que je me figure que la mare dans laquelle je patauge est l'océan Atlantique » railla-t-il. « Si tu le peux, pourquoi pas ?» répondit le plus sérieusement du monde. « Cela t'aiderait peut-être à comprendre ce vieux solitaire. » au lieu de te moquer de lui. On comprend toujours mieux les autres lorsqu'on commence par se regarder.
Wow.
Hein ? Voilà.
Pas mal.
Ça c'est dit.
Ça c'est dit, oui.
Donc là, on va passer à une petite histoire qui s'appelle « Les lézards et le cerf d'Ésope ». Deux lézards se chauffaient au soleil sur une vieille muraille. « Oh, quelle existence épouvantable que la nôtre !» dit l'un d'eux. « Nous vivons, c'est vrai, mais c'est bien tout. Nous ne tenons pas notre rang dans la création et le monde ne nous prête aucune attention. Nous vivons isolés et obscurs. Que ne suis-je né cerf pour être la gloire et l'orgueil des forêts royales ?» Or, tandis qu'il parlait, il arriva qu'une meute de chiens passa et qui poursuivait l'animal même dont il venait d'envier le sort. En un clin d'œil, les chiens l'eurent taillé en pièces sous les yeux des lézards. « Le voici, ce cerf royal dont tu jalousais le rang dans la création ?» dit le sage lézard à son ami songeur. « Que cela te serve de leçon et t'invite à bénir la providence qui t'a placé à l'humble rang où tu n'as rien à craindre plutôt qu'au fait des honneurs. » Le lézard écouta la leçon de son ami en silence et mangea son dîner de mouches et de scarabées de meilleur appétit que d'habitude. Pendant ce temps-là, son ami le sage, lui, il souriait.
Et alors, je crois qu'il y a une dernière petite histoire, une fable.
On va faire une petite histoire et après, je ferai, une, si tu veux bien, une fable de Florian, comme à mon habitude, j'adore. Donc, je
Allez.
Me régale et j'espère régaler les auditeurs également.
Allez, on écoute.
Donc, la première, c'est aussi quelque chose qui s'appelle « Le lion et les taureaux ». Quatre puissants taureaux vivaient dans la plus étroite amitié et passaient ensemble dans une belle prairie verte sans jamais se séparer. Il y avait dans le voisinage un lion redoutable qui n'attendait évidemment que l'occasion de les dévorer. Mais il était assez intelligent pour se rendre compte qu'il n'y avait aucun espoir tant qu'ils demeurent réunis. Bien plus, sa propre vie aurait été en danger s'il avait essayé de les attaquer. Tout ce que pouvait faire le lion, c'était de recourir à la ruse. Il commença donc par dire en secret à chacun des taureaux que les autres étaient des traîtres, si bien qu'ils se mirent à se soupçonner les uns les autres et que tous se méfiaient de chacun. Ses anciens amis se traitaient désormais avec une politesse glacée. Ils ne se parlèrent plus, bientôt ils se querellèrent, se battirent et l'air retentit de leur furie. Le lion en profita pour les surprendre les uns après les autres et pour les dévorer. Ça, c'est la rançon de la discorde. Elle laisse pénétrer dans la place l'ennemi astucieux. L'union et la confiance mutuelle permettent de connaître, de résister aux plus dangereux et aux plus puissants de ses ennemis.
Toujours d'actualité. Hein,
ah, c'est toujours d'actualité. C'est pour ça que ça m'a un petit peu interpellée. Et là, c'est donc une fable de Florian, donc Clarisse de Florian, qui s'appelle « Le cheval et le poulain ». Un bon père cheval, veuf et n'ayant qu'un fils, l'élevait dans un pâturage où les eaux, les fleurs de l'ombrage présentaient à la fois tous les biens réunis. Abusant pour jouir, comme on le fait à cet âge, le poulain tous les jours se gorgeait de sainfoin, se vautrait dans l'herbe fleurie, galopait sans objet, se baignait sans envie ou se reposait sans besoin. Oisif et gras à l'art, le jeune solitaire s'ennuya. Se lassa de ne manquer de rien. Le dégoût vint bientôt. Il va trouver son père. « Depuis longtemps, dit-il, je ne me sens pas bien. Cette herbe est malsaine et me tue. Ce trèfle est sans saveur, cette onde est corrompue. L'air qu'on respire ici m'attaque les poumons. Bref, je meurs si nous ne partons. » « Mon fils, répond le père, il s'agit de ta vie. À l'instant même, il faut partir. Sitôt dit, sitôt fait. » Ils quittent leur patrie. Le jeune voyageur bondissait de plaisir. Le vieillard, moins joyeux, allait d'un train plus sage. Mais il guidait l'enfant et le faisait gravir sur des monts escarpés, arides, sans herbage, où rien ne pouvait le nourrir. Le soir vint, point de pâturage. On s'en passa. Le lendemain, comme l'on commençait à souffrir de la faim, on prit du bout des dents une ronce sauvage. On ne galopa plus le reste du voyage. À peine après 2 jours, allait-on même au pas. Jugeant alors la leçon faite, le père va reprendre une route secrète que son fils ne connaît pas et le ramène à la prairie. Au milieu de la nuit, dès que notre poulain retrouve un peu d'herbe fleurie, il se jette dessus. « Oh, l'excellent festin, la bonne herbe !» dit-il. « Comme elle est douce et tendre !»« Mon père, il ne faut pas s'attendre que nous puissions rencontrer mieux. Fixons-nous pour jamais dans ces aimables lieux. Quel pays peut valoir cet asile champêtre ?» Comme il parlait ainsi, le jour vint à paraître. Le poulain reconnaît le pré qu'il a quitté. Oh, il demeure confus. Le père, avec bonté, lui dit « Mon cher enfant, retiens cette maxime. Quiconque jouit trop est bientôt dégoûté. Il faut au bonheur un peu de régime. »
Continue le voyage avec un petit tour en région et là, tu vas nous faire découvrir la région Aquitaine,
c'est tout à fait, c'est un conte facétieux, sur un témoignage de la vie difficile des journaliers, si tu veux, travailleurs de la terre, dans le temps, en Aquitaine. Mais ça peut se situer, je pense, un peu partout parce que le travail de la terre étant égal sur tout le département, enfin sur tous les départements de France, voilà. Oui. Bon, il se trouve que cette histoire est basée sur cette région-là. Le journalier. Il y avait une fois un roi qui se promenait le long d'un champ. Un pauvre journalier était en train de bêcher dans ce champ. « Adieu, l'homme !» dit le roi. L'autre leva la tête. « Bonjour, monsieur !» dit-il, sans reconnaître le roi. « Et que fais-tu là ?»« Et comme vous le voyez, je pioche la terre !» répondit l'autre. Le métier de pocheur est dur et il faut attraper de bonnes suées pour gagner sa vie. « Mais, dit le roi, « combien gagnes-tu par jour à piocher la terre ?»« Mon Dieu, monsieur, dit l'autre, je suis journalier, je travaille la terre des autres. Ce que je gagne varie selon les jours, une fois 20 sous, une autre fois 15. Mais certains jours, je ne puis travailler, car on ne donne pas assez d'ouvrage et je ne gagne rien. »« Et de cette façon, tu parviens à vivre. »« Oh, quant à vivre, je vis, dit l'autre, et même je fais mieux. Il me faut vivre, faire vivre, payer mes dettes, placer de l'argent à intérêt, et encore, j'en ai à jeter. Oh, « oh, mais tu te moques de moi !» s'écria le roi. « Bon, sûrement pas, monsieur, Dieu me garde d'une telle pensée !»« Eh bien, mon ami, dit le roi, je voudrais savoir comment tu t'arranges pour vivre. Faire vivre, payer tes dettes et placer de l'argent avec 15 sous par jour. » « Oh, monsieur, ce sera bientôt fait, » dit le journalier. « L'un dans l'autre, chaque jour apporte son pain, et je vis. »«
Bien, » dit le roi, « mais tu fais vivre également ?»«
Certes, ma femme est malade, elle ne peut pas travailler, je la fais vivre, elle aussi. »«
Et les dettes, si tu en contractes, comment trouves-tu le moyen de les payer ?»«
Les dettes ? Mon père et ma mère sont vieux, ils ne peuvent plus travailler. » Eux aussi, je les fais vivre. Mais et quand j'étais jeune et que je n'avais pas la force de travailler, c'est eux qui me faisaient vivre. Alors je paie mes dettes.
Oh, c'est fort bien, dit le roi.
Mais dis-moi, ce que tu entends par placer de l'argent à intérêt?
Bon, j'ai un fils qui est encore au berceau. Il ne travaille pas encore et cependant je le fais vivre. Mais lorsque je serai vieux, que je ne pourrai plus travailler, c'est lui qui me fera vivre. Ainsi, je fais pour mes pères et mères.
Cela, c'est placer de l'argent à intérêt.
Et l'argent qui reste pour le jeter, qu'est-ce donc ?
Monsieur, dit le travailleur de terre, j'ai aussi une fille. Elle est encore jeune et petite, elle ne travaille pas. Mais quand elle sera grande et de force à travailler, elle fera comme les autres. Elle trouvera un parti et elle s'en ira. Et moi, eh ben, je n'en aurai rien. Ce sera pour moi de l'argent jeté.
Alors maintenant... Je crois qu'on va aller du côté Rhône-Alpes.
Oui, des petites histoires de aussi, voilà, dans des petites femmes qui sont dans ces régions-là, effectivement. La première s'appelle la pendule. Tel le ramier perché au bord de son pigeonnier, Maître Pigeonneau, le patron du bon Saint-Éloi de la place de la Boucle, se tenait sur la troisième marche de l'escalier quand, sur le coup de midi, il vit s'arrêter devant lui un carrosse de grande allure. Deux touristes en descendirent, et l'hôtelier de sourire, de saluer, de s'empresser autour d'eux, de les conduire dans le petit salon du premier, réservé ordinairement aux clients de marque. Ce brave homme, bien qu'un peu naïf dans le fond, était ce que l'on appelle une fine casserole.
Ah, ces deux spécialités, le poulet Saint-Clair et l'escargot à la lyonnaise.
Et c'est cru donc.
Oh, enchanté.
Les deux clients firent un tel honneur au vin généreux et à la chair esquisse qu'on eût dit qu'ils sortaient le matin même de la prison de Saint-Paul. Quand, vers 2 heures, le père Pigeonneau se permit de monter afin de recevoir les compliments de ses clients, il trouva les deux quidames en admiration devant la pendule de style rococo qui ornait la cheminée du salon.
« Oh, le beau bibelot !» disait l'un.
« Admirable !» faisait l'autre.
« Ah, ces messieurs sont des connaisseurs, à ce que je vois !»
risqua l'hôtelier flatté, qui avait eu l'année précédente ce ridicule bibelot estimé 60 francs dans un partage de succession.
« Seriez-vous vendeur ?»«
Je ne dis pas non.
Oui, peut-être. Enfin, on pourrait voir. »«
C'est un souvenir de famille, » murmurait le père Pigeonneau en se forçant à mentir. « Un souvenir qui me vient de mon arrière-grand-père. Et dame, j'y tiens, vous comprenez ?»
Oh, évidemment, évidemment, concéda l'un des clients. Ce sentiment vous honore, cher monsieur. Mais en dehors de sa valeur d'ancienneté, cette pendule, pourquoi ne pas vous l'avouer, me rappelle le plus agréable souvenir.
Figurez-vous, que l'année dernière, à Béziers, une pendule semblable à celle-ci me fit gagner un beau billet de 1 000 francs, dans les circonstances que voici. Chez un notaire de mes amis, je tombais en arrêt devant une pendule, je vous l'ai dit, semblable à celle-ci, et dont j'admirais surtout le balancier ciselé. Dans le cours de la conversation, quand j'eus à son sujet, le notaire m'affirma qu'il pouvait suivre de l'index pendant 2 heures le balancier en répétant à chaque mouvement de va-et-vient « le voici, le voilà, le voici, le voilà ».
Vous vous moquez ? Du tout. «
Tout, je suis très sérieux, » fit-il. « Et si vous aviez 1 000 francs à perdre ?»«
Tenu, tenu !»
Et nous déposâmes les enjeux sur la cheminée. Au bout d'une demi-heure, le tablillon s'embrouilla, bafouilla et ne put continuer. J'empochai les enjeux.
« Ah ! Par exemple, s'étonnait le père Pigeonneau. C'est tout à fait curieux. N'empêche qu'avec moi, cher monsieur, vous auriez perdu. »«
N'en croiriez rien. C'est plus difficile que vous ne pensez. »
« Nom d'un rat ! Répétez pendant 2 heures, le voici, le voilà, en suivant du doigt le balancier. Oh, laissez-moi rire !»
Et s'animant, « Avez-vous 1 000 francs à perdre ?»«
Je vous dis que vous perdriez !»«
Allez, je vous tiens le pari. Capon qui s'en dédie. »«
Oh, bah, si vous y tenez, allons, topez-la !» fit celui des deux clients qui n'avait encore rien dit. « Nous verrons bien si votre langue est mieux pendue que celle d'un notaire. » À ce moment, 2h30 sonnaient. Très excité, le père Pigeonneau s'assit vivement dans un fauteuil face à la cheminée, le dos à la table et à la porte. « À 4h30, pensait-il, ému, j'aurais gagné 1 000 francs et cette paire de pagnons. Oh, oh là là !» Et sans plus attendre, les yeux rivés au balancier de la pendule, battant de l'index la mesure en cadence, il commençait à haute voix. « Le voici, le voilà, le voici, le voilà, le voici, le voilà. » Monotone, ce dialogue se poursuivait depuis 20 minutes quand son partenaire s'écria tout à coup. « Ah, mais votre enjeu, où est votre enjeu? Donnez votre enjeu !» Encore un qui veut apprendre à son grand-père à faire les maths fins, songe l'hôtelier. À d'autres, mon garçon. Et sans se laisser arrêter par cette première embûche, de la main inoccupée, le père Pigeonneau fouille adroitement la poche de son veston, en tire son portefeuille qu'il jette par-dessus son épaule sur la table. Déposerai-je les enjeux entre les mains de la patronne? Insinue encore perfidement son adversaire. Le voici, le voilà, le voici, le voilà, le voici, le voilà, le voici, oh, répond le patron du bon Saint-Éloi. Il entend bien ouvrir la porte du salon et descendre l'escalier en colimaçon, mais cette malice cousue de fil blanc lui suggère cette nouvelle réflexion gaie. Va toujours, mon fils, tu plaisanteras moins tout à l'heure. Et la voix se raffermit, il continue. Le voici, le voilà, le voici, le voilà, le voici, le voilà. Pendant que l'autre client sur la pointe des pieds ne tarde pas lui-même à rejoindre son acolyte. Arrivé en bas, il va à la caisse et, se penchant d'un air inquiet sur Madame Pigeonneau, occupée à aligner des bouts de sucre dans les soucoupes, « Madame, dit-il, montez donc là-haut. Je crois bien que le patron est atteint de catalepsie bafouilleuse. »«
Comment vous dites ?»«
Oui, oui, le vieux est assis devant la cheminée en train de tenir des discours incohérents à la pendule. Mon Dieu !» Madame Pigeonneau bondit hors du comptoir et grimpe 4 à 4 les escaliers pour apercevoir son mari continuant paisiblement, avec la régularité d'un métronome, son étrange manège.
« Joanie ! Joanie, m'explique-moi ! Qu'as-tu, mon gros chéri ?
Le voici, le voilà, le voici, le voilà, le voici, le voilà !» répond inflexiblement le père Pigeonneau à celle qui lui paraît stupidement liée avec les autres pour lui faire perdre son pari. Affolée, la patronne court à la rampe appelant « Jules, Jules, monte vite !» Le garçon de salle accourt. « Qu'est-ce que c'est? Qu'y a-t-il ? » Puis, devant le singulier manège, « Patron, supplie-t-il, parlez, dites-nous ce que vous avez !»«
Le voici, le voilà, le voici, le voilà, le voici, le voilà, le voici !» répond encore l'hôtelier.
Alors Jules, prenant une rapide décision, quitte son tablier et court chercher un médecin. Quand les deux hommes furent là, le père Pigeonneau continuait avec un entêtement de mule, l'œil hagard, la gorge sèche, le doigt rigide, d'un mouvement saccadé. Visiblement gagné par la fatigue, le sourire nerveux, les traits contractés, il bafouillait un peu, prononçant poissy, le voili, le voissa, le livoi, le quoissa, enfin bref. Le docteur l'observa un instant en silence, hocha la tête d'un air de mauvais augure et finit par lui tâter le pouls et déclara ensuite « Surtout ne le contrariez pas. Crise de folie douce que j'attribue au surmenage. Néanmoins, nous allons tenter un réactif. D'abord, faisons-lui avaler 100 grammes d'huile de ricin. Et puis, rasons-lui le sommet de la tête pour l'application d'un vésicatoire. Allez chercher un coiffeur. » L'ingurgitation de l'huile de ricin ne fut pas facile. Le patient, s'entêtant farouchement dans son geste automatique, accompagné de la phrase inlassablement répétée, on dut se servir d'un entonnoir placé de force au coin de sa bouche. Et quand le Figaro fut là, en 2 minutes, il rendit le haut du crâne de son client aussi net qu'une boule d'ivoire. « Plus que 10 minutes, songeait le père Pigeonneau, plus que 10 minutes, à bout de force. » Et au moment où on allait lui placer le vasicatoire, voilà que la pendule sonne 4h30. Alors, rassemblant toute son énergie, « Le voici, le voilà, le quoici, le quoiça » rugit-il pour la dernière fois. Bousculant ceux qui l'entouraient, l'hôtelier bondit hors du fauteuil, esquisse un petit entrechat, fait claquer ses doigts au-dessus de sa tête en rugissant « Gagné, j'ai gagné, j'ai gagné !»« Mais gagné quoi, mon pauvre Johnny ?» sanglote la patronne. « Un transport au cerveau ?» « Mon pari, j'ai gagné mon pari, 1 000 francs, j'ai gagné 1 000 francs !»« Mais ça ne va pas mieux, hein, » affirme le docteur. « Où sont mes clients, mes deux clients ?»« Mais quel client ?» fait Jules. « Mais ceux de tout à l'heure, là, ceux que nous avons servis ici, dans le salon !» Les clients ? Ben, il y a longtemps qu'ils sont partis. Ils ne nous ont donc pas réglé l'addition, patron ?
Pendant que le docteur et le coiffeur se retiraient, vaincus par la fatalité cruelle, le père Pigeonneau, lui, s'effondrait dans un fauteuil.
« Oh, les misérables » soupirent-ils. « Roulez, roulez, plumez. Oh, je suis plumé !»
Plumé, ce n'était que trop vrai. Escroqué de son portefeuille, contraint d'avaler 100 grammes d'huile de ricin, le dessus de la tête rasé comme un œuf, les clients partis sans payer l'addition, le père Pigeonneau venait d'être plumé comme un simple pigeon.
Pas mal. La petite chute est rigolote. Hein.
Comme quoi, voilà, hein, quand on réfléchit pas à ce qu'on fait.
Voilà ce qui nous pend au nez.
Voilà. Ici, c'est une histoire, voilà, ça va être un petit peu différent. Donc, ça s'appelle La Fontaine du Vieil Homme. C'est plutôt la légende qui nomme un lieu. Hein, pourquoi ça s'appelle ce nom-là, pourquoi on a donné des fois les origines plus ou moins d'un endroit particulier.
Allez, on écoute.
À une époque fort reculée, qu'il serait difficile de déterminer, les habitants d'un village du massif de la Grande Chartreuse virent arriver un étranger accompagné d'une enfant qui paraissait être sa fille. C'était un homme déjà mûr, à la taille élevée, au visage noble et distingué, portant l'épée et le costume des chevaliers. La jeune fille accusait 15 ou 16 ans. Une vraie tête d'ange, avec ses longs cheveux blonds où le soleil semblait avoir oublié un rayon. Ses grands yeux bleus qui laissaient lire jusque dans le fond de son âme, son front resplendissant de grâce et de beauté, sa démarche pleine de grandeur, volontiers l'on eût prise pour une apparition céleste. Ils s'établirent sur les bords du lac de Saint-Julien-du-Ratz, alors appelé Saint-Gelin-de-Rat. Le mystère dont ils eurent soin de s'entourer excita bien un peu la curiosité des voisins et même du gouverneur du château fort de la Perrière. Mais ce sentiment de curiosité, d'ailleurs, fit promptement place à la plus vive sympathie, quand on vit de quelle façon il prétendait s'imposer au pays. Les malheureux de toute la contrée devinrent leur protégé et l'objet de leur constante préoccupation. Y avait-il un pauvre dans le dénuement, un malade en danger ? Vite, ils accouraient, apportaient secours et remède. Fallait-il panser quelques plaies ? La jeune fille s'en acquittait avec une dextérité qui arrachait aux pauvres gens des cris d'admiration. La besogne terminée, ils faisaient quelques courtes recommandations et se retiraient, comme impatients de rentrer dans leur mystérieuse retraite. En 6 mois, ils se concilièrent si bien la sympathie de tout le pays qu'on les vénérait comme des anges. Ils vécurent là 2 ans, aussi impénétrables que le premier jour, mais sans cesse prêts à voler au secours des malheureux. Puis, un matin, les volets de la petite maison qui regardait le lac ne s'ouvrirent pas. Un grand malheur irréparable venait de fondre sur le vieillard et sur tout le pays. Que s'était-il donc passé ? On ne le sait pas au juste, car personne n'assistait au dramatique événement qui vit verser des larmes. Mais il est probable que la jeune fille, ayant voulu cueillir des nymphéas dans les larges feuilles couvraient la surface du lac, s'était approchée trop près du bord. Le pied lui avait glissé et la pauvre enfant s'était vue passer à trépas sans qu'aucune main se tendît vers elle. Ce ne fut qu'au soir que le père, inquiet, ayant fait le tour du lac, aperçut dans les roseaux le corps inanimé de sa fille. Les flots n'avaient pas voulu garder leur victime. Elle tenait encore dans ses mains crispées une touffe de nénuphars. Ses funérailles eurent lieu 2 jours après, au milieu des sanglots et des gémissements d'une foule innombrable, accourue des 10 lieues à la ronde. Son père, plus bas que le linceul qui recouvrait la morte, voulut lui-même la conduire à sa dernière demeure. Puis, quand tout fut fini, il se retira. Et, de 6 longs mois, on ne vit briller aucune lumière ni s'ouvrir aucune porte dans ce foyer visité par la mort. Les bonnes gens s'imaginèrent que le vieillard, brisé par la douleur, était allé rejoindre sa fille dans le repos éternel. Personne, néanmoins, n'osa s'en assurer. La superstition avait trop d'empire sur les imaginations. On s'écartait même de son chemin pour éviter de passer à côté de la mystérieuse maison. Et quand on le faisait, hommes et femmes, enfants, pressaient le pas et se signaient dévotement. Un jour, pourtant, ce deuil étrange eut une fin. On rencontra le vieillard portant un vase et se dirigeant du côté de ses gorges. Vous auriez juré qu'en 6 mois, il avait vieilli d'un siècle. De grandes et profondes rides creusaient son front. Ses cheveux étaient plus blancs que neige. Sa tête, d'ordinaire si droite, se penchait tristement vers la terre, incapable de porter le poids qui l'écrasait. Sa démarche était chancelante, toute sa personne cassée, brisée. Où allait-il ainsi, courbé en deux, par ces chemins solitaires où l'on risque de s'égarer sans rencontrer âme qui vive? On le sut plus tard, mais, chose merveilleuse, les petits-enfants qui avaient connu le vieillard écrasé par l'âge et le chagrin grandirent, vécurent et moururent. À leur tour, leurs enfants fournirent une longue carrière. Trois générations se succédèrent ainsi et le vieillard était toujours là. La mort semblait l'avoir oublié dans ce monde. Ce ne fut que plus tard, après de longues et nombreuses années, qu'on le trouva, un matin, affaissé et sans vie près du petit bois de hêtre qui domine le lac. Le gouverneur du château le fit enterrer avec tous les honneurs dus à son rang de chevalier. Car, malgré le mystère dont il était constamment enveloppé, le peuple n'avait cessé de le considérer comme tel, et la tradition s'en était perpétuée dans le pays. Alors seulement on découvrit le secret de ces courses quotidiennes que personne ne s'expliquait. À la mort de sa fille, fou de douleur, il s'était engagé par vœu à ne manger que du pain et à ne boire que de l'eau claire de la première source qu'il rencontrerait après avoir marché 2 heures durant. La foi de ces époques et le chagrin expliquent de pareils engagements. Or, le hasard le conduisit à cette fontaine jaillissante dont les eaux avaient la propriété de faire vieillir, il est vrai, mais en revanche, d'empêcher de mourir. De sorte que celui qui désirait la mort et l'appelait à grands cris, quand un remède à la violence de sa tristesse, trouva sans s'en douter une sorte d'immortalité que chacun d'autre achèterait chèrement. Et c'est depuis ce temps-là que la fontaine qui coule là-bas, dans les profondeurs de l'abîme, porte le nom de la fontaine du vieil homme.
Une belle petite histoire encore.
Voilà, merci. Moi, j'aime bien ces histoires de vraiment profondes.
Et on va passer sur un tout autre registre, puisque c'est bientôt Pâques.
Oui, oui, oui.
Et je crois que tu nous as réservé une belle surprise.
Ah ben, je ne sais pas, mais moi, une surprise, effectivement.
On peut même dire une exclusivité, on peut faire les malins un peu, puisque tu as écrit un conte de Pâques.
Oui, tout à fait.
Et tu nous réserves un peu la primeur aujourd'hui.
Voilà, c'est la première fois que je vais le lire, donc voilà, il ne sera peut-être pas... Voilà, prête, rond comme d'habitude peut-être, mais bon, c'est ce que j'ai écrit pour des tout petits, hein, enfin voilà, en fait pour tout petits, pour des maternelles, pour des enfants. Donc, ce conte s'appelle Le secret de l'île inconnue. Donc. Personne maintenant ne sait quand s'est passée l'étrange histoire que je vais vous raconter. Et pourtant, c'est arrivé. Il existait jadis une île dont les humains ignoraient l'existence. Sa forme était bizarre. Une longue et étroite bande de terre s'étendait, coupée en deux dans sa largeur par d'énormes rochers à l'allure infranchissable. D'un côté, il y avait beaucoup de sable et très peu de verdure sur de petites collines, et de l'autre, une forêt dense et luxuriante couvrait la totalité de cette moitié d'île. On n'apercevait ni chemin, ni sentier. Et les hauts rochers lisses n'offraient aucune possibilité d'escalade. Quant à la mer, de grosses et puissantes vagues empêchaient toute navigation. Alors, comment se rendre d'un côté à l'autre de l'île? Comment aller de la forêt à la plage ou de la plage à la forêt? Cela restait un mystère. Il faut que je vous dise, l'île était uniquement peuplée d'animaux extraordinaires aux couleurs extravagantes. Plus étrange encore, ces animaux parlaient. Voici leur histoire. Marchant rapidement au bord de la plage en direction de la colline, deux lapins bleus, oui, bleus, ne vous ai-je pas dit qu'ici, les animaux avaient des couleurs extravagantes? Ils étaient en grande discussion. Le plus petit des deux paraissait très excité.
« Oh, mais ne cours pas ainsi, Pierry, calme-toi, tu vas y arriver, » disait le plus grand.
« Ah, oh, tu crois ça ?
Arrête de t'inquiéter, je vais t'aider.
C'est très gentil de ta part, Noah. Mais vu l'importance des dégâts, je ne pense pas que nous arriverons à réparer cet engin avant ce soir. Et tu sais très bien qu'il est urgent d'aller chercher notre ravitaillement.
Tout en parlant, ils arrivèrent près d'une imposante cabane en bois avec un grand trou dans le toit.
Tiens, ça aussi c'est bizarre, un trou dans un toit.
Ils entrèrent tous deux dans cet abri d'où s'échappèrent de curieux bruits. Sur le plancher surélevé, une gigantesque panière en osier, reliée par des ficelles à quelque chose posé au sol, semblait donner quelques soucis à nos deux jolis petits lapins bleus. Mais quel était donc cet engin étonnant? À quoi pouvait-il servir?
Pendant ce temps, du côté de la forêt, régnait une certaine effervescence. Au pied de grands arbres, ondulaient d'énormes plantes sauvages. Elles abritaient une horde de chats qui, chargés de papiers colorés soigneusement rangés dans de petits sacs en toile accrochés sur leur dos, avançaient ainsi en direction des rochers.
Et devinez de quelle couleur étaient ces matous?
Eh bien, jaune, rose, orange, violet, certains étaient même multicolores. C'était drôle à voir.
Plus ils se rapprochaient des rochers, plus une odeur agréable flottait dans l'air. Subitement, tous les chats disparurent comme par enchantement. En fait, ils étaient entrés dans une grotte secrète située au pied de l'énorme falaise.
Oh, décidément, cette île est bien mystérieuse.
Au fond de la grotte, qui embaumait de plus en plus, se trouvait une source. Mais pas une source d'eau claire et fraîche. Non, 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 non. Une source de chocolat. Oui, 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 vous avez bien entendu, du bon chocolat tiède. Et juste au bord se dressait une grande table chargée de moules aux formes variées.
Incroyable! Ces chats très organisés fabriquaient le plus consciencieusement possible des œufs en chocolat de tailles différentes.
Pendant que certains coulaient le chocolat dans les moules, d'autres enveloppaient ceux déjà prêts dans les jolis papiers multicolores qu'ils avaient apportés.
Mais revenons vers nos petits lapins. Avaient-ils su réparer leur machine à temps?
Nos deux amis entassaient dans l'énorme panière des caisses de poissons et de coquillages de toutes sortes. Quand ils eurent tout embarqué, un sifflement strident se fit entendre et ce qui était au sol accroché à cette panière se mit à gonfler, gonfler, gonfler.
Oh, c'était très malin et ingénieux.
Comme il n'existait pas de moyen terrestre pour aller rencontrer les habitants de l'autre côté de l'île, il fallait passer par les airs. C'est pourquoi nos amis avaient construit un ballon dirigeable, une sorte de montgolfière, ce qui expliquait maintenant le trou dans le toit.
Voilà comment les lapins de la colline allaient voir les chats de la forêt et comment les échanges de nourriture se faisaient. Les chats recevaient les poissons et les conquillages dont ils raffolaient contre les œufs en chocolat qu'ils fabriquaient et qu'en ce temps-là, les lapins adoraient.
Comme il était déjà très en retard, Pierrick, en moment de décoller, ne prit pas garde au ciel qui commençait à se charger de nuages menaçants. Il ne pensait qu'à récupérer au plus vite les chocolats attendus par toute la colonie de lapins.
Arrivé à la forêt, il atterrit sans encombre au milieu d'une clairière près d'un grand arbre. Oh, ce n'était pas n'importe quel arbre, celui-ci était magique. Au lieu d'avoir un feuillage vert, rougissant à l'automne et tombant en hiver, lui offrait toute l'année de belles feuilles dorées, colorées, avec de superbes reflets brillants. Et c'est avec ces feuilles que nos minets enveloppaient les œufs en chocolat. Chaque rencontre de nos amis donnait lieu à une petite fête joyeuse. Le repas et les échanges terminés, Pierrick remonta dans son engin. Mais à peine avait-il pris de la hauteur qu'une forte bourrasque secoua dangereusement la nacelle. Puis un éclair fendit le ciel. Enfin un vent violent souffla, souffla, souffla et entraîna le pauvre Pierrick très loin de son île.
Pierrick ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Jamais il n'avait connu une telle tempête.
Il se blottit au fond de la panière, suspendu sous ce ballon devenu fou. La nuit tombait, l'orage se calmait, tout redevenait calme. Bravant sa peur, il se redressa doucement le long de son abri de fortune. Il ne reconnaissait rien, mais ce dont il était sûr, cette terre n'était pas son île. Où était-il ? C'est alors qu'il vit quelque chose qu'il n'avait encore jamais vu. Des rangées de maisonnettes éclairées, serrées les unes aux autres, entourées de jardins, de parcs, de chemins, défilaient sous ses pieds. C'était un village d'humains. Au moment où il s'en approchait, il perdit de l'altitude. Ah non, 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 il ne pouvait pas atterrir ici. Il fallait reprendre de la hauteur et vite. Alléger l'embarcation, voilà la solution. Alors il eut une idée. À contre-cœur, évidemment, il jeta par-dessus bord les œufs en chocolat. Encore et encore et encore. Si bien qu'effectivement, il remonta dans le ciel, mais hélas, pas assez rapidement. Et son ballon s'accrocha entre deux grands arbres touffus à la sortie du village. Malgré sa terrible inquiétude, la fatigue de Pierrick était si grande qu'il s'endormit sans même s'en rendre compte. Ce sont des cris et des rires qui le réveillèrent. Complètement dissimulé entre ces deux grands arbres, il pouvait observer sans être vu. Des enfants surexcités couraient à travers jardins et parcs, remplissant de petits paniers. Pierrick fut surpris de voir qu'il s'agissait de ses œufs en chocolat. Mince alors ! C'était fichu ! Il ne pourrait plus récupérer son précieux chargement. Oh là 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 ! Qu'est-ce qu'il allait devenir ? Bien sûr, en bas, personne ne savait par quel miracle ces chocolats étaient arrivés là. C'était à qui ramasserait le plus gros, le plus coloré. Ils étaient tous si appétissants. Oh, la joie illuminait les visages de ces enfants ravis. La nuit revint. Il réussit, après bien des efforts, à se décrocher et put enfin reprendre le cours de son étonnant voyage. Pierrick, ému en repensant à la joie de ses enfants devant ces chocolats, se fit une promesse. « Tes copains lapins comprendront sûrement que dans la vie, il faut savoir partager. Le sacrifice de quelques friandises valait largement le bonheur des enfants des villes et des villages. » Et c'est ainsi qu'il prit cette décision. À chaque printemps, il reviendrait en secret distribuer quelques œufs en chocolat. Alors les enfants, si vous ramassez à votre tour des œufs en chocolat dans la nature, regardez bien autour de vous, ou surtout s'il y a des arbres. Pierrick est peut-être là, caché quelque part à vous observer, car je sais qu'il aime particulièrement voir des enfants heureux, et il ne partirait jamais, jamais, sans être certain que tous ses œufs en chocolat aient bien été ramassés. Alors bonne chance, et régalez-vous bien, vos œufs seront peut-être ceux des lapins bleus.
Dominique, moi j'irais bien faire un tour sur cette île où gourmande. Le chocolat coule à flou.
Je voyais les yeux d'Emeline, vous voyez pas vous à l'antenne, mais je voyais les yeux d'Emeline quand je parlais de chocolat. Gling.
Eh oui, c'est vrai. Et je voulais juste en profiter pour dire, si on a envie que tu viennes nous écrire un conte, nous raconter une histoire, on peut peut-être te contacter.
Ah oui, tout à fait, oui, bien sûr, je peux me déplacer, effectivement, je sais pas, à l'occasion d'anniversaire d'enfants ou pour des associations, voilà.
Pour des comité d'entreprise,
oui, voilà,
qui font des petits spectacles.
Tout à fait. J'ai des spectacles qui durent 40 minutes, qui sont beaucoup plus agrémentés. Et après, j'écris à la demande, si on me le demande un peu à l'avance. Voilà. On peut faire des tas de surprises. Voilà, ça peut être.
Ça fait une belle surprise,
oui,
bien originale.
Ouais, pour les enfants, des fois, ils sont une dizaine et, bon, un anniversaire. Bon, des fois, ils savent pas trop. C'est vrai que pourquoi pas, c'est un peu plus. Un peu plus original, on va dire, peut-être, une lecture de contes. Après, voilà, j'en ai plein, j'ai plein de thèmes, plein d'histoires, et puis.
Et tu peux en créer,
oui,
si on te
tout à
demande.
Fait, voilà, si on me le demande, effectivement, je peux écrire, voilà. Après, on peut faire une sélection avec la famille, que les parents peuvent faire, voilà.
Et alors, comment ça marche? On te contacte sur ton téléphone, on te fait une proposition, c'est
oui,
ça?
Tout à fait, on peut me contacter. Après, voilà, après, on peut passer aussi par la radio, par ici, s'ils veulent avoir.
Par la radio,
tout à fait,
bien
voilà.
Sûr. Est-ce qu'on peut donner ton téléphone,
ouais,
comme ça.
Si tu veux. Donc, c'est le 06 03 25 53 04.
06 03 25 03.
Non, 50. On va recommencer, on efface tout. 06 03 25 53 04. 04 comme les Alpes de Haute-Provence, voilà.
Voilà un numéro à bien retenir et puis après, nous, on peut faire le lien avec
voilà. Après,
la radio.
Après, je passe par une association pour justement, pour faire, voilà, pour pouvoir le faire. Donc, c'est encadré, voilà.
C'est une bonne nouvelle, alors.
Voilà, je te remercie, voilà, donc.
Et on se retrouve dans 15 jours.
Ouais, voilà, effectivement. Donc on va reprendre aussi le fil de nos histoires avec peut-être j'espère Ptolémée le pharaon, hein, parce que c'est un petit joli fil conducteur avec de belles aussi choses qui moralisent un peu la vie.
Allez, le pharaon de retour dans la prochaine émission de Dominique. On peut en savoir un peu plus
Non, pas pour le moment. Non, pas pour le moment. Mais si elle veut tout savoir, Emeline. Non, faut laisser le suspense.
Eh bien, la seule solution, c'est d'être...
Devenir, voilà, écouter, tout à fait, dans 15 jours. 15 jours. Voilà.
Merci beaucoup.
C'est moi. Et je remercie les auditeurs également de leur attention. Merci.